France Inter.
J'aime bien le dire.
Bonsoir Fabienne Sintès. Il paraît que tu veux me voler ma place. C'est ça ce qui se murmure en régie.
Salut Fabienne Sintès.
Bon les filles, calmez-vous. Allez Marie, Marine, je vous souhaite le bonsoir. On se retrouve demain. Pour nous c'est parti. Le 18-20 de France Inter s'ouvre à l'autre bout du monde et au pas de votre porte. Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, les explications de Jean-Pierre Farandou.
Le PDG de la SNCF qui a appris ce matin qu'il ne serait pas reconduit à la tête de l'entreprise après les Jeux de Paris. Il était devant les sénateurs cet après-midi pour répondre aux questions, notamment sur l'accord fin de carrière conclu avec les syndicats qui ne plaît pas du tout à la droite et au gouvernement.
Et les autres titres, Kevin ?
C'était attendu, c'est maintenant officiel. L'autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'EPR de Flamanville. Près de 9 ans après les attentats du 13 novembre 2015, on a appris le suicide aujourd'hui de Fred Deville, de rescapé du Bataclan.
Et on en parle avec Arthur Deniveau, c'est le président de l'association Life for Paris qui est invité de ce journal.
Le tour malais pour finir, ce n'est pas le Tour de France, mais la visite d'État du président chinois qui s'achève ce soir. Et puis les fans de Taylor Swift déjà au rendez-vous devant la Défense Arena de Paris. Le concert n'est que dans 2 jours.
Et dans le 18-20 ce soir, il y a d'abord une trêve acceptée par le Hamas, non validé par Israël. Il y a une offensive peut-être à Rafah. C'est pas facile de comprendre ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient et c'est ce que nous allons tenter de faire. Il y a aussi Angélique Kourounis qui était la voix de Radio France en Grèce. Elle est morte hier à 61 ans et un jour dans le monde veut lui rendre hommage. Nous réentendrons certains de ses reportages. Kevin, avec vous, nous irons notamment en Inde, deepfake à tous les étages au cours de cette élection géante. Franck Madvon dans Le Monde à 18h50 est avec Poutine et son investiture, et dans Caroline au pays des 27. Nous allons à la rencontre de une ancienne de la Cour de justice qui explique l'Europe dans des classes. Vous allez voir que c'est pas toujours facile. À 19h20, le téléphone sonne. On est heureux d'accueillir pour vous Amina Yamyan, gynécologue obstétricienne, cofondatrice de la Clinique des Femmes. Elle veut en finir une bonne fois avec les violences gynécologiques. Elle est tout à vous au 01 45 24 7000.
France Inter.
La SNCF va donc changer de capitaine.
Jean-Pierre Farandou, qui a toujours été candidat à un deuxième mandat, ne sera pas reconduit à la rentrée. Annonce du gouvernement à la mi-journée, quelques heures seulement avant son audition au Sénat devant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, devant laquelle le PDG en place depuis 2019 est venu s'expliquer à propos notamment de l'accord sur les fins de carrière des cheminots négocié avec les syndicats, mais qui ne plaît pas vraiment au ministère de l'économie, qui voit une forme de contournement de la réforme des retraites. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Cette audition au Sénat a donc pris une tournure plutôt inattendue.
Oui, et alors qu'on attendait des sénateurs LR en colère, plusieurs comme Didier Mandelli, surprise, ont plutôt été compatissants avec Jean-Pierre Farandou.
Cette décision prise ce matin, brutale, à quelques heures de cette audition, n'est pas sans rappeler, toute chose égale par ailleurs, à l'éviction du général Pierre de Villiers de ses fonctions de chef d'état-major.
Caustique également Jacques Fernic, sénateur du Bas-Rhin.
Fin de carrière, la formule est quelque peu polysémique aujourd'hui.
Jean-Pierre Farandou, qui était initialement venu, vous l'avez dit, défendre son accord de fin de carrière avec les cheminots, ce qu'il a fait.
J'ai entendu les doutes et les critiques. Ma conviction, c'est que c'est un bon accord. Il ne coûtera rien au contribuable puisque je gagne 1,3 milliard de résultats nets. Je peux financer cet accord.
Avec un retour sur la polémique, au passage, l'opposante à Bruno Le Maire qui n'aurait pas été mis au courant de l'accord signé.
Dans mon conseil d'administration, par ailleurs, j'ai des membres, bien sûr, de l'État et de la haute administration et de Bercy. Donc dans mon conseil d'administration, j'explique les stratégies et les objectifs et je rends compte du résultat des négociations et de leurs enjeux. Voilà, donc les choses sont très claires.
Séquence révérence derrière.
Je suis fier d'être à la tête de cette grande entreprise publique qui, pendant la pandémie de la Covid, a transformé les TGV en hôpitaux et se prépare dans tout le pays pour que la France gagne la médaille d'or des Jeux Olympiques 2024.
À l'instant, Bruno Le Maire garantit que le non-renouvellement du mandat de Jean-Pierre Farandou, 67 ans, est dû à la limite d'âge qu'il atteindra l'an prochain.
Un Maxime Debs, spécialiste transport de France Inter. Jean-Pierre Farandou, lâché donc par le gouvernement, mais plutôt soutenu par les syndicats de la SNCF. Fabien Villedieu est délégué syndical Sudrail.
C'est pour de très mauvaises raisons s'il saute aujourd'hui. Ils le punissent tout simplement parce qu'il y a eu la négociation d'un accord de fin d'activité. Accord qui n'a jamais été négocié dans le dos du gouvernement, hein, qui était une notoriété publique. Hein, je rappelle, y compris M. Farandou l'avait dit dans Le Monde le 23 février en expliquant qu'il y aurait un accord de fin de carrière négocié avec les organisations syndicales. Donc c'était quelque chose de connu, su, y compris du gouvernement. Et que, à mon avis, pour flatter une partie de l'électorat du président de la République, celui le plus réactionnaire, qui ne supporte pas la SNCF et qui ne supporte pas lorsqu'il y a des mesures de progrès social, eh ben, il joue tout simplement le rôle de fusible.
Fabien Villedieu du syndicat Sudrail, interrogé sur France Info pour le moment. On ne sait pas qui remplacera Jean-Pierre Farandou à la tête de la SNCF à l'issue de son mandat.
Feu vert pour l'EPR.
On l'a appris il y a quelques minutes, l'autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service du réacteur nouvelle génération de Flamanville prévu cet été après 12 ans de retard et un coût multiplié par 5. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
C'est donc une nouvelle étape importante, hein, Delphine.
Oui, ce feu vert tant attendu autorise EDF à exploiter le réacteur de nouvelle génération de Flamanville. L'EPR, à ce jour, c'est le réacteur le plus puissant au monde, 1650 mégawatts, de quoi alimenter 2 millions de foyers après un chantier qui s'est transformé en véritable chemin de croix pour l'électricien qui a accumulé les déboires et les incidents. Ce feu vert permet donc à EDF de charger le combustible nucléaire dans le réacteur. Ce sera sans doute dans les jours qui viennent. Il y aura ensuite des essais de démarrage, puis un couplage au réseau électrique. EDF vise un raccordement cet été lorsque l'EPR atteindra un quart de ses capacités. Mais il faudra plusieurs mois pour atteindre la puissance maximale. La direction du site reste prudente sur le bon déroulé de ce calendrier. Toutes les étapes seront soumises à de nombreux contrôles, notamment de la part du gendarme du nucléaire qui publie ce soir une synthèse de son instruction avec l'appui de l'Institut de radioprotection. Résultat de près de 600 inspections et contrôles durant la construction du réacteur. Au total, un rapport de 187 pages disponible sur le site de l'ASN.
Les explications de Delphine Simon, service économie de France Inter.
Les inquiétudes sont toujours plus grandes autour de Rafah.
Alors que l'armée israélienne semble avoir commencé son offensive dans cette ville refuge de plus d'un million de Palestiniens de la bande de Gaza ces derniers mois. Les bombardements se sont intensifiés, des chars se trouvent aux portes de la ville et la bande de Gaza est à nouveau coupée du monde. Les points de passage pour l'aide humanitaire à Rafah et Kerem Shalom ont été fermés par Israël. Une situation inacceptable pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
Rafah est l'épicentre.
Rafah est l'épicentre des opérations humanitaires à Gaza. Attaquer Rafah entraverait encore plus nos efforts pour aider la population alors que la famine menace. Le droit humanitaire international est sans équivoque. Les civils doivent être protégés, qu'ils quittent Rafah ou qu'ils restent dans la ville. Même les meilleurs amis d'Israël sont clairs. Un assaut sur Rafah serait une erreur stratégique, un désastre politique et un cauchemar humanitaire. J'appelle tous ceux qui ont de l'influence sur Israël à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider à éviter une tragédie encore plus grande. La communauté internationale partage la responsabilité de promouvoir un cessez-le-feu humanitaire, la libération inconditionnelle de tous les otages et l'augmentation massive de l'aide pour sauver des vies.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cet après-midi, qui demande par ailleurs la réouverture immédiate des points de passage de Rafah et Kerem Shalom. En ce qui concerne les négociations autour d'un projet de trêve, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce qu'Israël a bien envoyé sa délégation ce soir au Caire. Israël qui précise que sans progrès sur la question des otages, il intensifiera son opération à Gaza. On y revient dans Un jour dans le monde, juste après ce journal. En Russie, Vladimir Poutine a été officiellement investi pour un nouveau mandat de 6 ans aujourd'hui à son poste de président. Ensemble, nous gagnerons, a-t-il notamment dit dans son discours, assez court et sans évoquer explicitement la guerre en Ukraine. Quand de son côté, Kiev a annoncé cet après-midi avoir arrêté 2 militaires dans ses rangs, présentés comme des agents au service de la Russie. Ils projetaient d'assassiner le président ukrainien Volodymyr Zelensky. France Inter à Kiev, Virginie Pironon.
Les autorités ukrainiennes disent avoir démantelé tout un réseau du FSB, les services de sécurité russes opérant sur leur sol. Un réseau qui aurait été supervisé depuis Moscou et qui visait à recruter parmi les proches de Volodymyr Zelensky. Artem Dertyarenko, porte-parole du SBU, les services de sécurité ukrainiens.
L'une des tâches les plus importantes de ce réseau de renseignement était de trouver des militaires proches des services de sécurité afin de prendre le chef de l'État en otage et de le tuer.
Deux suspects ont été arrêtés, deux colonels du service d'État ukrainien assurant la sécurité de plusieurs responsables militaires. Ils sont désormais accusés de haute trahison. Selon les services de sécurité ukrainiens, leurs recrues auraient été chargées de surveiller les mouvements du président, mais pas seulement. D'autres hauts responsables étaient également ciblés. Parmi eux, le chef du renseignement militaire Kirillo Budanov ou encore le chef des services de sécurité Vassil Malyuk. Au total, depuis le début de la guerre, en février 2022, le président Volodymyr Zelensky aurait été la cible de plus d'une dizaine de tentatives d'assassinat. Il admet volontiers en public ne plus les compter.
Virginie Pironon, envoyée spéciale de France Inter en Ukraine.
La mort d'un rescapé du Bataclan.
Fred De Wild s'est suicidé dimanche. Ce sont ses proches qui l'annoncent aujourd'hui dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux. Le dessinateur est mort, je cite, terrassé par la violence de ses traumas contre lesquels il luttait sans relâche avec tant de courage depuis ce soir funeste du 13 novembre 2015 où il disait qu'une partie de lui était morte.
Bonsoir Arthur Desnouveaux.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association des victimes du Bataclan Life for Paris. Il y a 850 adhérents à Life for Paris. Le 13 novembre dernier, Fred De Wild, enfin le 13 novembre 2015, Fred De Wild était dans la fosse. Il y a passé deux heures interminables et j'allais vous demander si vous saviez qu'il allait si mal. Mais au fond, en même temps que je vous le demande, j'imagine que toutes les victimes aujourd'hui vont bien avant de rechuter brutalement et d'aller mal. Ces terribles montagnes russes-là, est-ce que vous les vivez tous, non ?
Oui, je pense qu'on le vit tous, qu'on essaye tous de se convaincre qu'on ne le vit pas et puis qu'on est rappelé à la réalité par des drames comme celui-là. Pour répondre au début de votre question, moi j'ai vu Fred à un concert la semaine dernière. On a passé une excellente soirée. Il était rayonnant. C'était un type plein de vie. Je sais que c'est dur à dire et c'est probablement dur à entendre, mais il était plein de vie. Et évidemment, son œuvre, ses prises de parole publiques, touchait beaucoup à la mort, était très sombre, mais on avait l'impression qu'il arrivait à maintenir tout ça à une distance assez saine. Et puis voilà, il a suffi d'une soirée pour se faire rattraper par des démons qui en fait l'avaient sûrement pas quitté depuis 8 ans et demi.
Et c'est vrai parce que lui disait qu'il était au fond jamais ressorti du Bataclan. Il disait « ma vie est conduite par cette soirée ». On entend ce que vous dites, Arthur Desnouveaux. On est capable d'oublier, de passer une excellente soirée. Et puis ça vous rattrape, c'était le cas visiblement chez Fred De Wild, non ?
Oui, le terrorisme et les traumas qui vont avec, c'est à la fois une violence inouïe sur le moment, mais c'est aussi un poison très lent. Et ça d'ailleurs, à la fois pour la société et pour les victimes directement, et on a un peu tendance à l'oublier, puis ça revient par vagues, comme ça. On saura jamais ce qui a déclenché ça dimanche soir, mais c'était clairement un reflux de mal-être.
Ça veut dire que c'est ça aussi votre rôle à tous, au fond, au sein de l'association, c'est vous surveiller les uns les autres. J'imagine que l'annonce de la mort de Fred De Wild secoue tout le groupe et au même moment.
Oui, hier soir, sa compagne m'a appelé, m'a annoncé la nouvelle. On s'est dit qu'on attendrait ce matin pour le dire plus largement. Et voilà, l'objectif, c'était d'appeler ses amis les plus proches dans la communauté des rescapés individuellement, ce qu'on a fait. Ensuite, de communiquer au reste des adhérents. Puis après, de rendre l'information publique. Parce que dans l'idée, il faut amortir le choc et s'assurer qu'il n'y aura pas de suicide sur ce suicide. C'est toujours notre crainte. C'est le troisième suicide dans la communauté des victimes du 13 novembre. Et à chaque fois, il y a cette même crainte qu'il y ait un effet boule de neige quand on l'apprend. Et donc, on a des pare-feux, on a une forme de cellule de crise et on est disponible pour tout le monde pendant ces heures-là.
Est-ce que c'est encore plus difficile, Arthur Desnouveaux, désormais que le procès est fait, donc il n'y a plus rien à quoi on s'accroche et qui donne au moins un horizon qui serait lié au traumatisme. Au fond, on est tout seul désormais avec sa propre vie. Est-ce que ça a multiplié un peu peut-être vos craintes autour des suicides, notamment cette période, l'après-procès ?
Il y a toujours un risque, en effet, quand l'actualité semble plus calme, de relâcher notre vigilance, de plus être suivi par des médecins. On a une communauté très soudée, c'est à ça que servent les associations. Enfin, la société civile reste mobilisée. Puis malheureusement, le terrorisme reste dans l'actualité. On a eu évidemment l'attaque du 7 octobre, on a eu l'attaque de Bir Hakeim. Et donc, on est plutôt dans un état ces derniers mois où on est assez soudé et où on est soudé par une actualité horrible. Mais c'est vrai que pas baisser la garde, ça reste extrêmement difficile parce qu'on a envie que de ça, de passer à autre chose. Mmh. Et on voit qu'on est vulnérable.
Et soudé entre vous, Arthur Desnouveaux, parce que est-ce que c'est facile aujourd'hui de dire à quelqu'un qui n'appartient pas à votre groupe-là, j'ai des retours, je me revois le 13 novembre, est-ce que c'est compréhensible aujourd'hui par la société, par nous?
Bah, c'est bien pour ça que je parle encore dans les médias avec d'autres. C'est pour rappeler que c'est normal d'avoir des réminiscences et que notre but, ça restera toujours de réintégrer la société le plus pleinement et le plus fonctionnellement possible, mais qu'il faut encore avoir un peu de patience avec nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dissoudra l'association aux 10 ans de l'attentat, pour se dire qu'on essaye de passer à l'étape d'après. Mais c'est pas facile.
On a toute la patience du monde avec vous, Arthur Desnouveaux. J'espère en tout cas que vous le sentez. Merci mille fois. Vous êtes le président de Life for Paris, association des victimes du Bataclan.
L'actualité ce soir, c'est aussi la fin de la visite d'État du président chinois en France. Xi Jinping doit prendre l'avion d'une minute à l'autre, direction maintenant la Serbie, après une journée dans les Hautes-Pyrénées, terre d'enfance d'Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ont terminé la journée sur le col du Tourmalet, sous la neige. Maxence Lambrec, vous êtes sur place pour France Inter. Ce soir, l'entourage d'Emmanuel Macron assure que la question des droits humains a été évoquée par Emmanuel Macron avec Xi Jinping.
Oui, il a dit tout ce qu'il voulait dire au président chinois, explique son entourage. Il a évoqué certains cas individuels de Ouïghours, mais la diplomatie du mégaphone, ça ne fonctionne pas. On en parle entre nous, assume l'Elysée, porte fermée, et on vérifie les résultats ensuite. Cet échange a eu lieu hier, car ici, avec leurs épouses, il est davantage question de cette neige qui n'arrête pas de tomber. La carte postale est un peu gâchée, mais entre l'Armagnac, les bérets, le jambon de porc noir, les cadeaux ne manquent pas.
Je sais que hier, c'était l'anniversaire de ta maman. Et donc, on lui a préparé plusieurs cadeaux avec des vues du pic et de la vallée, mais aussi ces couvertures de laine des Pyrénées.
C'est la laine des moutons d'ici.
Alors, pas de cravate et un tutoiement appuyé pour accentuer cette image de proximité. Peu de dirigeants dans le monde ont ce type de moment avec le leader chinois, se félicite son équipe.
Avant que vous partiez, la chanson d'amour.
Oh, montagne,
avant que vous partiez, la chanson d'amour et un café arrangé à 55 degrés d'alcool. Xi Jinping va maintenant décoller pour la Serbie, puis la Hongrie, deux alliés de Moscou. Et à son retour de Pékin, ce mois-ci, il recevra en grande pompe Vladimir Poutine et plaidera alors pour une trêve olympique en Ukraine. C'est en tout cas ce qu'espère l'Elysée.
Maxence Lambrec, en direct des Hautes-Pyrénées pour France Inter.
La folie Taylor Swift a déjà commencé à Paris.
Le premier des quatre concerts de la superstar américaine n'a lieu que jeudi, mais les Swifties, c'est le surnom des fans de Taylor Swift, sont déjà nombreux devant la Défense Arena, parce qu'un show de Taylor Swift nécessite visiblement de la préparation, et ça passe par les produits dérivés déjà en vente sur place. Sarah, bonsoir.
À 48 heures du premier concert, on voit à chaque minute de plus en plus de t-shirts fleurir sur les épaules des fans. C'est un des produits qui se vend le plus aujourd'hui auprès des Swifties, en majorité des jeunes femmes, comme Marion, qui a ses billets pour deux soirs et qui savait exactement ce qu'elle voulait.
Dans mon sac, il y a un pull, un t-shirt et un tote bag que j'avais repéré du coup, parce qu'il y a des images qui sont sorties hier quand ils ont commencé à installer les stands. Ça fait des années que j'attends de la voir, donc c'est le petit plaisir et le souvenir aussi.
Et une fois les emplettes faites, on se prend en photo pour exhiber ses trouvailles, t-shirt, gourde ou poster. Alice et Sabrina ont 15 ans, elles n'ont pas eu de place pour les concerts, mais tenaient à venir ensemble.
On est devenus amies grâce à Taylor Swift.
On est prêtes. Franchement, les photos, on est allé à fond. Avec tous les téléphones.
Plein de photos devant le camion où il y a toutes les affiches. Donc ouais. On va les poster de partout, je pense.
Il y a également les fans de passage. Jenny, par exemple, a traversé l'Atlantique.
Yeah, so we literally just
on vient littéralement d'arriver depuis l'aéroport. Les tickets étaient très difficiles à obtenir aux États-Unis, donc c'était un prétexte pour visiter la ville des Lumières aussi. Oh mon Dieu, je me sens tellement chanceuse parce qu'on va voir le premier concert. Je suis si impatiente.
Et les files d'attente ne désemplissent pas. On devrait donc voir dès vendredi soir des milliers de fans arborant des t-shirts à l'effigie de la superstar américaine.
Le reportage de Sarah Mansoura, gagné avec 2 buts d'écart. Voilà la mission du Paris Saint-Germain ce soir en demi-finale. Retour de la Ligue des champions de football face au Borussia Dortmund, vainqueur 1-0 à l'aller. Coup d'envoi au Parc des Princes à 21h. Et puis à peine un mois après sa lourde chute sur le Tour du Pays Basque, Jonas Vingegaard est de nouveau sur son vélo malgré plusieurs fractures à la clavicule notamment. On le voit à l'entraînement sur une vidéo postée aujourd'hui par son équipe Visma. Évidemment, j'espère être au départ du Tour de France, dit le Danois qui l'a déjà remporté deux fois. Ça commence le 29 juin.
Allez Kevin, merci beaucoup. À tout de suite dans Un jour dans le monde. En passant sous les radars, vous arriverez jusqu'en Inde.
C'est vrai.
Bravo. Un œil sur le ciel, s'il vous plaît.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Elodie Calac, plus de soleil demain, mais encore quelques averses sévères.
Oui, près de la Méditerranée, ce sera ensoleillé avec du vent, Mistral, Tramontane, jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Du sud-ouest jusqu'au massif central, aux Alpes et au nord-est, un réveil souvent gris, parfois humide, avec des brouillards vers la Garonne, vers le Val-de-Saône. L'après-midi, ça s'éclaircira, mais il faudra composer avec quelques averses, plus nombreuses et parfois orageuses, vers les Alpes et vers la Corse. Et puis du nord-ouest et du nord de l'Aquitaine, vers la frontière belge, en passant par la région parisienne. Là aussi, nuages bas et brouillards le matin, mais ça s'arrange en cours de matinée. Le soleil s'imposera généreusement. Ça restera un peu plus nuageux quand même sur le Nord-Pas-de-Calais.
Température en hausse.
6 à 15 degrés le matin. L'après-midi, 17 à 24 degrés. Et cette douceur va s'accentuer jusqu'au week-end sous le soleil. On attend une moyenne de 26 degrés au nord samedi, 27 au sud. Ça tournera à l'orage pour dimanche par l'ouest.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure après le journal de 19h.